Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue, de nouveau bienvenue même, sur Les yeux ont des oreilles pour ce 54e épisode. Nous vous proposons toutes les deux semaines une traversée de textes mis en voix et de créations sonores autour de grandes thématiques que vous pourrez découvrir sur le site de Transistor. De nouveau bienvenue, donc, pour la deuxième fois ce jour, car il s'agit toujours de la journée de la radio. Nous vous avions proposé d'écouter 4 textes, 2 essais, 2 récits au sujet de la radio, thématique des plus surprenantes en ce jour si spécial, et vous avions promis un épisode bonus consacré à la lecture d'un chapitre intégral. Alors, attachez vos ceintures, nous vous emmenons aux confins du Kamchatka, où se déploie la vision animiste du monde de Nastassia Martin suite à sa rencontre avec un ours, et qu'elle relate et creuse dans un livre publié récemment en 2019, « Croire aux fauves ». Nous vous souhaitons une belle écoute, et vous laissons tout à vos yeux, et surtout, vos oreilles. Nastassia Martin, croire aux fauves. Trop, c'est trop, je m'étais dit. Je m'en vais. Je dois fuir hors de ce système de signification et de résonance qui menace ma santé mentale. Plus tard, je lisserai tous ces fragments d'expériences ingouvernables, je les transformerai en données enfin suffisamment essentialisées et désincarnées pour pouvoir être manipulées et mises en relation les unes aux autres. Plus tard, je ferai mon métier d'anthropologue. Pour l'instant, je dois couper radicalement. Je m'en vais vers les montagnes, je veux de l'air, pas d'obstacle pour le regard, du froid, de la glace, du silence, du vide et de la contingence. Surtout, plus de destin et encore moins de signes. Et pourtant, c'est au cœur des glaciers et au milieu des volcans, loin des hommes, des arbres, des saumons et des rivières, que je l'ai trouvé, ou que lui m'a trouvé. Je marche sur ce plateau d'altitude aride, sur lequel je n'ai a priori rien à faire. Je sors du glacier, je descends du volcan, derrière moi la fumée crée un halo de nuages. Je m'imagine seul, pour toutes les raisons personnelles, historiques et sociales que l'on sait, mais pourtant je ne le suis pas. Un ours, tout aussi déboussolé que moi, se promène lui aussi sur ces hauteurs où il n'a rien à faire non plus. Il est presque comme un alpiniste alors. C'est vrai, que fait-il là, sur cette terre dégarnie, sans baies ni poissons, alors qu'il pourrait être tranquillement en forêt en train de pêcher? Nous tombons l'un sur l'autre. Si le kairos doit avoir une essence, c'est celle-ci. Une aspérité du terrain nous cache l'un à l'autre. La brume monte, le vent ne souffle pas dans le bon sens. Quand je l'aperçois, il est déjà devant moi. Il est aussi surpris que moi. Nous sommes à 2 mètres l'un de l'autre. Il n'y a pas d'échappatoire possible, ni pour lui ni pour moi. Daria m'avait dit, si tu rencontres un ours, dis-lui, je ne te touche pas, ne me touche pas non plus. Oui, certainement. Mais pas là. Il me montre les dents, sans doute, a-t-il peur? Moi aussi, j'ai peur. Mais faute de pouvoir fuir, je l'imite, je lui montre les dents. Tout va très vite ensuite. Nous entrons en collision, il me fait basculer, j'ai les mains dans ses poils, il me mord le visage, puis la tête, je sens mes os qui craquent. Je me dis, je meurs, mais je ne meurs pas, je suis pleinement consciente. Il lâche prise et m'attrape la jambe. J'en profite pour dégager mon piolet qui est resté à ma bretelle depuis la descente du glacier juste derrière. Je le frappe avec, je ne sais pas où, car j'ai les yeux fermés. Je ne suis plus que sensation. Il lâche. J'ouvre les yeux, je le vois s'enfuir au loin, en courant, en boitant. Je vois le sang sur mon arme de fortune. Et moi, je reste là. Hallucinée et sanguinolente, à me demander si je vais vivre, mais je vis. Je suis plus lucide que jamais, mon cerveau tourne à 1000 à l'heure. Je me dis, si je m'en sors, ce sera une autre vie. En ce jour du 25 août 2015, l'événement n'est pas. Un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamchatka. L'événement est, un ours et une femme se rencontrent. et les frontières entre les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre un humain et une bête qui, en se confrontant, ouvrent des failles sur leur corps et dans leur tête, c'est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité, le jadis qui rejoint l'actuel, le rêve qui rejoint l'incarné. La scène se déroule de nos jours, mais elle pourrait tout aussi bien être advenue il y a 1000 ans. C'est juste moi et cet ours dans le monde contemporain indifférent à nos infimes trajectoires personnelles. Mais c'est aussi le face-à-face archétypal. C'est l'homme chancelant au sexe dressé face au bison blessé dans le puits de Lascaux. Comme dans la scène du puits, c'est l'incertitude quant à l'issue du combat qui préside à l'événement incroyable qui pourtant advient. Mais contrairement à la scène du puits, la suite n'est pas un mystère. Puisque aucun de nous ne meurt. Puisque nous revenons de l'impossible qui a eu lieu. Ce n'est pas une pensée que je voudrais verbaliser. Je préfère l'écrire. Aujourd'hui, assise au bord de la rivière dans la neige mouillée, j'écris qu'il existe une loi implicite, silencieuse. Une loi propre aux prédateurs qui se cherchent et s'évitent dans les profondeurs des bois ou sur les dorsales de la terre. La loi est la suivante. Lorsqu'ils se trouvent, leur territoire implose, leur monde se retourne, leur cheminement usuel s'altère et leurs liens deviennent indéfectibles. Il existe une suspension du mouvement, une retenue, un arrêt, une stupeur, qui saisit les deux fauves pris dans la rencontre archaïque, celle qui ne se prépare pas, celle qui ne s'évite pas, celle qui ne se fuit pas. Au sortir du No Man's Land tant espéré de la montagne, du glacier, du plateau d'altitude, finalement moins dépeuplé que je l'imaginais, il ne me reste que peu de certitude. La stabilité des êtres et des choses m'échappe. Leur organisation en systèmes intelligibles et institués me fuit. La possibilité de leur pérennité dans le temps me déserte. Mais données, celles que j'avais soigneusement collectées, celles que j'avais commencé à mettre bout à bout pour créer un monde, celui que je voulais partager avec mes contemporains, gisent à présent à mes pieds. Comme autant de liens brisés qu'il faudra bien, plus tard, réagencer autrement. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir vivre plus loin, comme disent tous ceux qui habitent ici, dans la forêt, sur la rivière, sous le volcan. Il faut pouvoir vivre après, avec et face à cela. Juste vivre plus loin. Que veut dire sortir des abysses où règne l'indistinct, choisir de reconstruire d'autres limites à l'aide des nouveaux matériaux trouvés tout au fond de la nuit indifférenciée du rêve, tout au fond de la gueule béante d'un autre que soi. Je pense au petit rat musqué et à l'homme du mythe Gwich'in, en Alaska, concernant la création du monde. Je pense à l'océan sans limite sur lequel il flotte, incertain, ouvert, non borné, liquide. Je pense à ce petit rat musqué qui plonge tout au fond de l'eau, là où il fait noir, là où il est aveugle, là où il a peur, pour aller recueillir dans ses griffes les fragments de tourbe qu'ils utiliseront ensemble avec l'homme, pour créer une terre ferme sur laquelle marcher et délimiter leurs espaces respectifs. Je pense aussi à cet homme aveugle et maladif, qui reçoit l'aide du plongeon Huard, qui grimpe sur son dos et qui par 3 fois plonge avec lui dans les profondeurs sombres du lac, pour en revenir transformé et doté d'une nouvelle vision. Je pense à toutes ces histoires et à tous ces mythes que moi, comme tant d'autres anthropologues, avons soigneusement retranscrits dans nos monographies sur les peuples que nous avons étudiés, à tous ces voyages d'un monde à l'autre qui attisent notre intérêt scientifique, à tous ces hommes un peu spéciaux, ces chamans, que nous traquons comme les chasseurs pistes les animaux qui les fascinent. Je pense à tous ces êtres qui se sont enfoncés dans les zones sombres et inconnues de l'altérité et qui en sont revenus, métamorphosés, capables de faire face à ce qui vient. De manière décalée, ils font à présent avec ce qui leur a été confié sous la mer, sous la terre, dans le ciel, sous le lac, dans le ventre, sous les dents. Thank you. Voilà, c'était donc le 54e épisode de Les yeux ont des oreilles en compagnie de Nathanaël. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment sur nos ondes et vous souhaitons une belle semaine, de bonnes vacances de Pâques et, surtout, une merveilleuse fin de la journée de la radio. Nous nous retrouvons dans 2 semaines, même endroit, même heure, et n'oubliez pas que vos yeux restent à l'écoute et surtout, vos oreilles.